Et pour l'heure, il est 14h, temps universel, 15h ici à Paris et à Bruxelles. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Nous ne sommes pas seuls. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky remercie ses alliés européens au sommet extraordinaire des 27 en ce moment à Bruxelles. Réunion de crise sur la sécurité du continent face au repli américain. La Russie, elle, tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron, le président français, après son discours hier soir et ses mises en garde face à la menace russe. À suivre aussi, reportage à Jenin, en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne poursuit ses opérations. Les soignants sont en première ligne. En France, une page qui se tourne à Lille, dans le Nord. La maire socialiste depuis 24 ans, Martine Aubry, va passer la main. Et puis la côte est de l'Australie, en alerte à l'approche d'un cyclone tropical, Alfred, un phénomène inhabituel dans le secteur. Oui, Volodymyr Zelensky, chaleureusement entouré par ses alliés européens à Bruxelles, contraste frappant après la rencontre désastreuse du président ukrainien avec Donald Trump dans le bureau ovale il y a une semaine. Réunis en sommet à Bruxelles, les 27 affichent leur soutien à Kiev et plusieurs dirigeants dénoncent désormais directement une menace russe sur le continent, comme Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Dans son allocution, le président français a aussi proposé un débat stratégique sur la protection des Européens par la dissuasion nucléaire française. Discours très critiqué à Moscou, notamment par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.
Bien sûr, c'est une menace pour la Russie. S'ils nous considèrent comme une menace, convoquent une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne, dit qu'il faut se préparer à utiliser les armes nucléaires contre la Russie, bien sûr, c'est une menace. Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient aussi lutter contre la Russie, Napoléon, Hitler, M. Macron, n'agit pas très gracieusement, car eux ont dit directement « nous devons conquérir la Russie, nous devons la vaincre ». Lui veut apparemment la même chose. Mais pour une raison quelconque, il dit « nous devons combattre la Russie pour qu'elle ne vainque pas la France, que la Russie crée des menaces pour la France et l'Europe ». Vous savez, M. Macron déclare périodiquement avec beaucoup de fierté qu'il appellera certainement Poutine, lui parlera. Il en a la possibilité. Personne ne s'y oppose. Au contraire, le président souligne constamment son ouverture au contact avec tous ses collègues.
Voilà le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, propos recueillis par Anissa El-Jabri à Moscou. Dans ce contexte géopolitique chamboulé, comme d'autres dirigeants européens, Emmanuel Macron a promis de nouveaux investissements militaires pour muscler la défense sans augmenter les impôts. De quoi ouvrir, Raphaël Delvolvé, un débat sur les arbitrages budgétaires à venir.
Le président l'a dit hier soir.
Il faudra des réformes, des choix, du courage.
Et ce matin, le Premier ministre assure avoir reçu le message. François Bayrou dit vouloir faire des choix prochainement sans tout sacrifier.
La défense est désormais une priorité évidente, mais ça n'efface pas d'autres priorités. Le souci des finances publiques, le souci du pacte social.
La situation est délicate au moment où la France cumule plus de 3300 milliards d'euros de dettes. À gauche, c'est tout trouvé. Pour socialistes et insoumis, il faut taxer les plus riches et surtout ne pas toucher au social. L'eurodéputé LFI Manon Aubry sur Europe 1.
S'ils refusent d'augmenter les impôts des plus riches pour financer la guerre, alors quels vont être les sacrifices sociaux qui vont en découler.
À l'extrême droite, on déroule des propositions souverainistes et anti-européennes. Le député RN Sébastien Chenu ce matin sur TF1.
Une France forte, c'est l'abandon par exemple du Green Deal. L'abandon du marché européen de l'électricité.
Pas de réelle proposition de réforme pour le moment. Mardi dernier, le ministre de l'économie mettait le sujet du travail sur la table. Éric Lombard sur France Info.
La faiblesse relative de la France comparée à d'autres pays européens, c'est qu'on n'a pas assez de Françaises et de Français au travail.
Ouvre-t-il la porte à de nouvelles réformes de l'assurance chômage ou des retraites? Réponse prochainement. Hier soir, le président Macron demandait aux partis de faire des propositions.
En France encore, le temps est venu de passer la main pour Martine Aubry, emblématique maire socialiste de Lille dans le Nord depuis 2001, donc près d'un quart de siècle. L'élue de 74 ans, ancienne ministre associée aux 35 heures, a annoncé sa démission pour la mi-mars. Elle précise tout de même qu'elle ne prend pas sa retraite politique. Un message en forme d'ultimatum de Donald Trump sur sur son réseau social. Il prévient le Hamas et les habitants de Gaza. Il écrit « Si vous gardez des otages, vous êtes morts » en majuscule. Et cela alors que Washington a confirmé publiquement l'existence de contacts directs avec le Hamas, pourtant considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. Parallèlement, en Cisjordanie occupée, l'opération de l'armée israélienne continue à Jenin, au nord du territoire. Le personnel médical, médecin, infirmier ou encore ambulancier est en première ligne, sauver des vies au risque de la sienne. Témoignage recueilli par Amiras Willem à Jenin auprès du directeur de l'hôpital public.
Tu vois là en face, c'est le camp de réfugiés.
Wissem Becker, directeur de l'hôpital, est bien malgré lui aux premières loges.
Là, ce sont quelques-unes des fenêtres qui ont subi des dégâts pendant la dernière opération israélienne. Ce sont des balles ou alors le souffle des explosions qui ont causé cela. À l'instant même où on se parle, on peut voir des blindés et des bulldozers devant nous. Là, la zone qu'on voit en face est interdite d'entrer. Toute personne qui entre peut se faire tirer dessus.
En l'espace de quelques mois, 5 employés de l'hôpital ont été blessés et un médecin tué, dit-il. La veille, l'armée israélienne a tué 3 personnes. L'un des corps vient d'arriver au rez-de-chaussée. Le directeur de l'hôpital nous confie qu'il sait qu'un jour, son tour viendra sans doute.
Ce matin, je suis venu au travail en voiture alors que la situation est tendue à Jenin. J'avais conscience que l'on pouvait me tirer dessus à tout moment. Tout le monde a peur. En fait, à chaque fois qu'on vient ou qu'on sort de l'hôpital, on se dit ça. Mais on ne peut pas tourner le dos à notre peuple comme le monde l'a fait. On va rester à ses côtés malgré toutes les difficultés.
En un an, l'Organisation mondiale de la santé a répertorié près de 700 attaques contre des structures médicales ou des ambulances en Cisjordanie occupée, soit près de 2 par jour. Amiras Willem, de retour de Jenin, RFI.
Un nouvel appel pressant de la Turquie au Parti des travailleurs du Kurdistan, Ankara, exige que le PKK dépose les armes immédiatement et sans condition. Cela fait suite à l'appel du chef historique du PKK, Abdullah Öcalan, de dissoudre le mouvement et de mettre fin à 4 décennies de guérilla. La Chine promet de se battre jusqu'au bout dans la guerre commerciale engagée par les États-Unis avec les nouveaux droits de douane. En marge de la session parlementaire qui se tient en ce moment à Pékin, le ministre chinois de l'économie a dénoncé des mesures qui perturbent l'économie mondiale, dit-il. Malgré cette nouvelle donne, Pékin a maintenu son objectif de croissance à environ 5% en 2025. Un exercice militaire qui tourne mal en Corée du Sud, 2 avions de chasse de l'armée de l'air ont largué par erreur 8 bombes au mauvais endroit sur un village. 15 personnes ont été blessées, dont des civils. L'armée a présenté ses excuses. En principe, cette fois, ce sera la bonne. Après plusieurs reports, le premier vol commercial de la fusée Ariane 6 est espéré pour tout à l'heure depuis la base de Kourou en Guyane, avec à son bord un satellite militaire. Lancement très symbolique pour la souveraineté spatiale européenne. Il est envisagé à 16h24, temps universel. Tous aux abris dans le secteur de Brisbane, sur la côte est de l'Australie, dans l'œil du cyclone tropical Alfred. Attendu ces prochaines heures, des écoles ont déjà été fermées, des vols annulés. C'est un phénomène très rare, explique David Faranda, directeur de recherche au CNRS, et ce n'est pas très bon signe.
C'est très très rare, et donc même si on n'a pas encore fait des études d'attribution spécifiques pour les cyclones Alfred, ce qu'on peut dire c'est que sa trajectoire et même le fait qu'il a pu vaincre la bataille des 3 cyclones, donc continuer dans sa trajectoire, peut-être lié au changement climatique. Au niveau global, on a une température très élevée au-delà du seuil de 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'époque pré-industrielle, qui était le seuil fixé par le GIEC comme seuil à ne pas dépasser pour éviter ce genre d'extrêmes climatiques. Mais si on regarde même dans les eaux de l'océan Pacifique, on voit des températures très élevées et l'absence de vents d'altitude qui donc favorise le fait que les cyclones continuent sa vie sur l'océan et qui peut arriver à des latitudes donc très méridionales dans l'hémisphère sud, puisque les eaux restent chaudes même à des latitudes qui sont les latitudes de Brisbane.
Le chercheur David Faranda, joint par Juliette Pietraszewski, il est minuit 10 à Brisbane. C'est pas du vent, c'est l'heure de retrouver Anne-Cécile Bras.